Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le jeudi 11 février 2021. Christophe Mallet et Jean-Noël Lucas pour vous accompagner au cours de cette heure. Nous parlerons de tennis avec la toujours très sympathique Ons Jabeur de la Tunisie. Vous verrez une interview très sympa. Et nous parlerons également d'économie avec Nicolas Perpich, comme chaque jeudi. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. L'OMS qui approuve l'utilisation du vaccin AstraZeneca à travers la planète. Les suites du procès en destitution pour Donald Trump, l'ex-président américain. Et en France, l'exécutif qui explore des changements dans la lutte contre les violences sexuelles. Mais on débute ce journal avec le coronavirus en Australie. L'Australie du Sud qui a fermé sa frontière aux personnes de Melbourne après que l'épidémie ait pris place dans les hôtels de quarantaine à Melbourne soit passée à 8 cas. Un brumisateur utilisé par un voyageur de retour donc, dans un hôtel Holiday Inn à l'aéroport de Melbourne semble avoir aidé à disperser le virus dans l'atmosphère. Le médecin d'urgence Stephen Parnis a déclaré que les hôpitaux avaient cessé d'utiliser ces brumisateurs en raison du risque de Covid-19. Il a dit sur Channel 9 qu'il avait été choqué quand il avait appris que quelqu'un avait utilisé dans un des hôtels de quarantaine. On l'écoute.
We all took a deep breath and thought, my goodness, how could this possibly have happened? But I think what it shows is that even though this has gotten through the screening processes, just one example has led to an outbreak. And it shows how incessant the risks are in hotel quarantine.
Voilà, donc le médecin d'urgence dans le Victoria, Stephen Parnis. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué l'approbation donc, de l'Organisation mondiale de la santé du vaccin AstraZeneca pour toute personne âgée de plus de 18 ans, je vous le disais en titre. Tout ça s'ensuit que certains pays remettent en question l'efficacité du vaccin, comme l'Afrique du Sud, le vaccin qui sera finalement fabriqué et mis à la disposition en Australie. On écoute Boris Johnson.
These vaccines are safe and effective, and it was good to see the World Health Organization today confirm its support for the Oxford AstraZeneca vaccine for use in everyone over the age of 18 and obviously everyone over 65, and also supporting the 12-week interval between the two doses. Indeed, they say the longer interval provides greater protection.
Voilà donc le Premier ministre Boris Johnson. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union donc européenne était en retard pour autoriser les vaccins du Covid-19. Ils avaient pris beaucoup de retard. Elle a été critiquée pour la lenteur du déploiement du vaccin sur le vieux continent. Le blanc était derrière des pays comme le Royaume-Uni. Mais Mme von der Leyen affirme que malgré ces retards, les commandes des vaccins collectivement au nom de tous les États membres étaient la bonne chose à faire. On l'écoute.
I cannot even imagine what would have happened if a handful of big players, big member states, had rushed to it and everybody else had been left empty-handed. What would that have meant for our internal market and for the unity of Europe? In economic terms, it would have been nonsense and it would have been the end of our community.
Voilà donc les propos traduits de la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. Un scientifique australien impliqué dans l'enquête sur les origines du Covid-19 dit qu'il pense que le virus a bien commencé en Chine et qu'il avait circulé dans la communauté à partir de la mi-novembre. Le professeur Dominic Dwyer, microbiologiste et expert en maladies infectieuses, il fait partie de New South Wales Health Pathology, il a déclaré à Nine News qu'il était convaincu que ce virus était donc originaire de Chine et que les preuves d'une origine en dehors de la Chine était très limité. Le professeur Dwyer était le seul Australien dans une équipe de 14 personnes travaillant pour l'Organisation mondiale de la santé. On l'écoute.
I would hope that a conclusion and a definitive source for all of this will be made. many of these outbreaks actually take years to sort out. So part of the WHO work was advising what sort of studies need to be done to try and sort this out over the next year or so. I mean, remember with SARS, it took well over a year before the bat virus was identified. I would expect it's going to be similar here, but there's clearly a lot of work that needs to be done.
13h05, direction la France maintenant. L'exécutif qui réfléchit à des modifications des lois qui ont pour but de protéger les citoyens contre les violences sexuelles. Le ministre de la Justice a d'ailleurs dévoilé 3 nouvelles pistes. Elles portent sur le seuil d'âge, la prescription et l'inceste. Laura Martel.
Première proposition, la définition d'un nouveau crime. Tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol. Instaurer ainsi un seuil d'âge permettra, souligne le garde des Sceaux, d'évacuer la problématique question du consentement qui est un frein, dit-il, aux condamnations. En effet, dans l'état actuel du droit, pour qu'un viol ou une agression sexuelle soit condamné, l'absence de consentement de la victime doit être démontrée au travers des notions de violence, menace, contrainte ou surprise. Avec ce nouveau crime, une seule condition, il devra être établi que l'agresseur avait connaissance de l'âge de la victime, indique Éric Dupond-Moretti, qui précise qu'une exception sera également prévue pour éviter de criminaliser une relation entre deux adolescents dont l'un deviendrait majeur au travers d'un écart d'âge fixé à 5 ans. Deuxième proposition, l'instauration d'une prescription dite glissante pour que toutes les victimes d'un même auteur puissent bénéficier d'un procès. Concrètement, si pour une victime A, le crime n'est pas prescrit alors qu'il l'est pour d'autres victimes du même auteur, l'absence de prescription de la victime A s'étendra à toutes les autres. Enfin, pour renforcer la lutte contre l'inceste, la réflexion est toujours en cours, indique le ministre. Puisqu'il n'y a pas de consensus entre les associations, certaines plaidant pour la création d'une infraction spécifique, quand d'autres estiment que l'on doit continuer à parler de viol.
Et c'était Laura Martel pour RFI. Aux États-Unis, deuxième jour du procès de destitution de Donald Trump. Depuis hier, les élus se penchent sur le fond de l'histoire. L'ancien président est accusé d'avoir incité à l'insurrection au Capitole quelques jours avant la passation de pouvoir. Vous vous en souvenez très certainement. Le bilan, je vous le rappelle, était quand même de 5 morts. Depuis Washington, Anne Corpet, les procédures ont déjà commencé.
Oui, ils disposent en tout de 16 heures pour déployer leurs arguments, mais les audiences sont limitées à 8 heures par jour. Alors depuis la mi-journée, les élus se succèdent pour démontrer que pendant des mois, Donald Trump a mobilisé ses troupes autour d'une idée, qu'une défaite ne pourrait être que le produit de fraude et qu'il faudrait se battre pour conserver le pouvoir. C'est une sorte de longue chronique d'un désastre annoncé. Les élus exposent les tweets, les extraits de discours de l'ancien président et décrivent ses actions de plus en plus désespérées pour rester en fonction. Provocations, pressions, menaces, attaques et constants mensonges au sujet du résultat des élections. La violence n'était pas seulement prévisible, il l'a délibérément provoquée, lance un procureur qui rappelle, avant le 6 janvier, plusieurs élus avaient reçu des menaces de mort à cause de sa rhétorique. Une autre élue évoque le soutien tacite de Donald Trump aux milices d'extrême droite et aux groupes suprémaciste blanc, elle montre un message diffusé sur un réseau extrémiste. Le Capitole est notre objectif. Ces groupes avaient des armes, des cartes. Ils disaient ouvertement que Donald Trump allait les aider, assure-t-elle. Aucune image inédite encore pour l'instant, mais un à un, les procureurs décrivent cette dérive inexorable qui, selon eux, ne pouvait aboutir qu'à une explosion de violence, des violences qu'ils qualifient de délibérées, orchestrées et prémédité par Donald Trump.
Et c'était Anne Corpet pour RFI à Washington. Les États-Unis encore, ils ont annoncé une série de sanctions contre l'armée en Birmanie en réponse au coup d'État donc, qui a conduit à l'arrestation d'Aung San Suu Kyi et d'autres hauts responsables politiques. Le président américain Joe Biden a déclaré que son gouvernement empêchera les généraux militaires d'avoir accès à 1 milliard de dollars de fonds gouvernementaux birmans détenus aux États-Unis. On l'écoute.
I've approved a new executive order for enabling us to immediately sanction the military leaders who directed the coup, their business interests, as well as close family members. We're freezing U.S. assets that benefit the Burmese government while maintaining our support for healthcare, civil society groups, and other areas that benefit the people of Burma directly.
Voilà donc pour le président américain Joe Biden. Direction la Chine maintenant. Le pays le plus peuplé au monde affiche une natalité en nette baisse. Cette année, le nombre de naissances a chuté de 15% depuis Pékin. Stéphane Lagarde.
Ce ne sont encore que des données partielles qui s'ajoutent aux statistiques relevées dans différentes provinces chinoises l'an passé, mais ces 10 millions de bébés nés en 2020, comparés aux 11 790 000 naissances de 2019, devraient accentuer le vieillissement d'une pyramide des âges chinoise qui certes n'a pas encore la tête d'un champignon comme les voisins sud-coréens et japonais, mais est de plus en plus marquée par le poids des cheveux gris. Ces 20 dernières années, le nombre des personnes âgées a quasi doublé, explique Liang Xunxiao du Forum sur le vieillissement de la société à Pékin. Depuis 1999, les seniors représentaient 7% de la population, mais ce chiffre devrait passer à 14% dans les deux ans. C'est la vitesse de cette augmentation qui inquiète, poursuit l'un des fondateurs de ce think tank, qui cherche des solutions à une Chine qui vieillit. La chute des naissances en 2020 est probablement marquée par la crise sanitaire et le confinement. Elle est plus généralement le signe aussi d'une volonté d'émancipation des Chinoises qui ne sont plus pressées d'épouser leurs beaux-parents, comme le veut la tradition des quatre générations sous le même toit.
Et c'était Stéphane Lagarde pour RFI, 13h10. Allez, le fait est assez rare pour qu'on puisse le mentionner. Les agriculteurs allemands sont dans la rue. Ils protestent contre de nouvelles lois mises en vigueur dans leur pays qui ont pour but de protéger les insectes et donc par conséquent de diminuer l'utilisation des pesticides. Reportage Pascal Thibault.
Retour vers le passé. Pour la Fédération des agriculteurs allemands, le projet de loi du gouvernement nuit à la compétitivité de cette branche sans améliorer la protection des insectes. Depuis deux semaines, ils manifestent à bord de leur tracteur, scandant « sans agriculteurs, pas d'avenir ». Le projet de loi a mis du temps à être conclu, tant les désaccords étaient nombreux entre la ministre chrétienne-démocrate de l'agriculture et son homologue SPD en charge de l'environnement. Il a fallu qu'Angela Merkel tape du poing sur la table pour que le dossier progresse ces derniers jours. Le texte veut restreindre l'utilisation des pesticides dans les campagnes pour enrayer la disparition des insectes. Le glyphosate, soupçonné d'être cancérigène, serait interdit fin 2023. Le gouvernement a aussi mis fin à des pratiques controversées comme la castration à vif des porcelets ou le broyage des poussins mâles. La réforme de la politique agricole commune européenne, qui prévoit un plus grand respect de l'environnement, va à l'avenir renforcer un peu plus la colère des paysans allemands.
13h12, coup d'œil météo à travers le pays en cette fin de journal. À Perth, il fera 26 degrés, Adélaïde 38, Melbourne 34, Hobart 26, Canberra 30, Sydney 27, Newcastle 27, Brisbane 29, Cairns 31 et Darwin 31 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. L'OMS qui donc approuve l'utilisation du vaccin AstraZeneca. On l'a vu, les suites du procès en destitution de Donald Trump et en France, l'exécutif qui explore des changements dans la lutte contre les violences sexuelles. 13h13, courte pause et on retrouve Jean-Noël pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis, l'Open d'Australie, le showman du pays Nick Kyrgios qui a gagné en 5 manches hier soir contre Hugo Humbert, le français qui avait 2 balles de match à 5-4 dans la 4e manche. Et c'est la foule qui m'a aidé à rester dans ce match et à gagner ce match, a déclaré Nick Kyrgios. On l'écoute.
It was a strange match, like I'm telling you, if you're inside my head, there were some dark thoughts in there, I tell you what. It tends to be my career, you know. I'll live to fight another day, and you know, hopefully, I can continue to play good tennis like that in front of you guys, man. That's all I can ask.
Hugo Humbert est déçu. On l'écoute sur RFI.
Je suis touché, je suis déçu. C'était un beau combat. Je pense qu'on a fait un bon match. j'ai bien tenu avec mon service. Après, du fond, je trouve que j'ai eu du mal à proposer du jeu, à faire ce que j'avais envie de faire, être agressif. J'ai beaucoup raté, le jeu n'était pas encore là, malgré les deux balles de match. Je pense que je suis pas loin de battre les très bons joueurs. Après, les excellents, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Faut que je progresse encore. Bah, pendant le match, je me suis quand même régalé, c'était cool. J'adore jouer contre des grands joueurs, sur des grands courts, avec une ambiance super incroyable. Donc j'ai vécu un sacré moment quand même, mais bravo à lui, ouais.
Au prochain tour, donc, Nick Kyrgios va rencontrer Dominic Thiem, l'Autrichien, le champion de l'US Open de 2020. Victoire de Fiona Ferro, la Française, contre Elena Rybakina, la Kazakh, en deux manches hier, 6-4, 6-4. Ça passe pour Adrien Manarino contre Miomir Kecmanovic, le Slovaque, en trois manches. Mais défaite de Corentin Moutet, le Français, en quatre manches par Miloš Raonic, le Canadien. Caroline Garcia rentre à la maison. Elle a été battue par Naomi Osaka, 6-2, 6-3. Alizé Cornet, éliminée aussi par l'Américaine Ann Lee en deux manches. Alexandre Muller, éliminé lui aussi par l'Argentin Diego Schwartzmann en trois manches. Once Jabeur, la Tunisienne, passe au troisième tour après sa victoire contre Anna Karolina Schmedliova, la Slovaque, en deux manches. Et on écoutera Once Jabeur avec notre collègue Christophe à Melbourne Park, juste après ce journal des sports. Le Suisse Stan Wawrinka repart à la maison également après sa défaite en cinq manches contre Fuksovic, le Hongrois. Ça passe pour le Canadien Félix Auger-Aliassime contre l'Australien Duckworth, et il retrouvera son compatriote Denis Shapovalov au prochain tour. Ce jeudi, Rafael Nadal jouera contre Michael Moe, l'Américain. Nadal, toujours gêné par son dos. On l'écoute.
My back is not perfect, as I said a couple of days ago. Every day that I am able to go through.
Le dos n'était pas parfait, non, comme je l'ai dit il y a quelques jours. Chaque match de plus à jouer, c'est une nouvelle chance de m'améliorer, c'est comme ça. Il y a toujours possibilité de progresser. Et c'est pourquoi je suis ici. Je joue et je me bats pour essayer d'avancer et ensuite me donner une chance dans ce tournoi. Aujourd'hui, ce n'était pas génial. J'avais besoin de changer un peu de mouvement sur mon service. J'ai dû lutter avec ce problème durant tout le match. Demain, ce sera repos. Après-demain, un autre match. Je dois donc y aller étape par étape et essayer de rester positif.
Try to stay positive.
Et puis deux Australiennes joueront ce jeudi, c'est Ash Barty qui jouera contre Daria Gavrilova. Kristina Mladenovic, la Française, jouera contre la Japonaise Nao Ibino ce jeudi. L'Égyptienne Maya Sheriff jouera ce jeudi contre Kaya Juvan, la Slovène. Elle avait battu la Française Chloé Paquet avant-hier, 7-5, 7-5 au premier tour. On écoute Maya Sheriff.
Cela signifie énormément pour moi. Cette victoire, cette première en Grand Chelem, c'est une barrière mentale de franchie. Je suis vraiment contente et je vais tout faire pour continuer. J'avais beaucoup aimé jouer mon premier Grand Chelem à Paris, mais j'adore être ici à Melbourne.
On passe maintenant au foot en France, des matchs de la Coupe de France, 32e de finale. On notera la victoire de l'OM contre Auxerre, 2-0. Nasser Larguette, coach par intérim des Marseillais, est heureux. On l'écoute.
La qualification est la bienvenue dans la période que l'on vit. On est dans le dur. Il n'y a pas une grande qualité de jeu. Par contre, il y a une grande solidarité, une grosse débauche d'énergie. On a vu les garçons aller jusqu'au bout des efforts. Et puis, la satisfaction d'avoir un Dario Benedetto qui marque son but, ça faisait un moment. Et puis, la rentrée du jeune qui a conclu à la fin. L'analyse que j'en fais, c'est surtout la générosité, la débauche d'énergie des joueurs. Et puis, ils sont restés solidaires jusqu'au bout parce qu'il y a eu des moments difficiles. Auxerre est une belle équipe qui est très joueuse, avec des bons joueurs techniquement, qui a su maîtriser aussi le jeu. Donc, une belle satisfaction de renouer avec une victoire.
Victoire aussi du Paris Saint-Germain contre Caen, 1-0. Lens qui bat Nantes, 4-2. Nantes où le coach Raymond Domenech a été limogé seulement après 7 matchs avec cette équipe. Et puis, à noter les qualifications de Toulouse, de Montpellier, de Monaco, de Brest, de Nice, de Metz et de Lille. Mardi, Lyon a battu Ajaccio 5-1. En Angleterre, des matchs de la COP, à noter la victoire de Manchester City contre Swansea 3-1. En Espagne, demi-finale allée de la Coupe du Roi avec la défaite du FC Barcelone par Séville 2-0. Mardi, le Real Madrid s'est imposé contre Getafe 2-0. En Italie, demi-finale de la Coupe avec l'Atalanta Bergame qui a battu Naples 3-1. Et cette nouvelle que le Burkina Faso veut organiser la Cannes de 2029. Les précisions de Gabriel Barrois pour RFI.
Le pays des hommes intègres va tout d'abord s'employer à mettre aux normes dans l'urgence ces deux stades les plus représentatifs hérités de la Cannes 98. Le stade du 4 août de Ouagadougou et le stade omnisport Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso, déclassés par la CAF et la FIFA, et pour lesquels plus de 34 milliards de francs CFA sont indispensables pour la réhabilitation. Et pour que le projet de la Cannes 2029 ne paraisse pas surréaliste aux yeux des Burkinabés, le premier responsable des sports, Dominique Nana, a expliqué que le Burkina Faso, qui est partant pour l'organisation des Jeux islamiques de 2025 et des Jeux africains de 2027, va s'appuyer stratégiquement sur ces deux événements sportifs pour s'offrir une grande partie des infrastructures dignes de ce nom, permettant de prétendre à plus grand avec la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le reste, le pays des hommes intègres devra user d'ingénierie financière et un appui conséquent de l'État pour parvenir à ses fins. Les institutions financières du pays sont déjà en alerte pour relever le défi.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Il n'aura jamais changé son style, hein, Danny Briand. Je t'attends, extrait de son nouvel album. 13h24, on va faire une courte pause et on va parler à Ons Jabeur. C'est l'une des joueuses symboliques du monde arabe. Elle est tunisienne. Elle a fait une énorme percée l'année dernière. Elle était en quart de finale de l'Open d'Australie. Eh bien, l'objectif cette année, c'est de faire encore mieux tout de suite après ça. On est avec Ons Jabeur, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur l'antenne de Radio SBS. L'Australie l'année dernière, ça a été un tournoi marquant pour vous. Vous avez fait une vraie percée, votre première grosse percée dans un grand chelem. Comment vous avez vécu l'après-Australie l'année dernière? Ça a été compliqué pour tout le monde. Est-ce que ça a été compliqué pour vous?
C'était extraordinaire déjà de vivre ce moment-là ici en Australie, à Melbourne. Et après, ça fait plaisir de voir que tout le monde s'intéresse à Ons Jabeur, à la joueuse arabe, tunisienne, africaine. Ça fait vraiment plaisir. Mais franchement, j'ai bien géré les autres tournois. J'ai bien joué, même les autres adversaires, ils voyaient que j'étais là, je voulais bien jouer, je voulais faire des bons résultats, et je suis contente que ça allait de cette façon-là. Bon, après le Covid, elle m'a pas permis de continuer à bien jouer, mais finalement, je suis vraiment contente que j'ai pu faire une excellente début d'année.
Comment vous approchez ce tournoi cette année? Parce que voilà, vous avez l'expérience de l'année dernière et puis il n'y a pas eu énormément de tennis entre l'année dernière en Australie et puis cette année en Australie. Comment vous approchez cette année pour pouvoir rééditer l'exploit? Ou est-ce que vous avez un objectif d'aller encore plus loin?
Bien sûr. Maintenant, j'ai prouvé que je pouvais être en deuxième semaine pendant beaucoup de grands chelems, que ce soit à Roland ou presque à l'US Open. C'est franchement point par point, jeu par jeu, match par match. C'est le plus important pour moi. Je sais que j'ai toutes les capacités de bien jouer, d'aller très loin. Et franchement, je vise loin maintenant. J'aimerais bien être en deuxième semaine et être en finale et gagner un grand chelem. Je veux vraiment faire un grand exploit. J'ai pu être en quart de finale, mais là, je suis gourmande, j'ai envie de plus.
Vous êtes devenue presque une star dans le monde arabe, en tout cas dans le monde du tennis. À l'habitude, c'était les hommes. Comment vous vivez ça aujourd'hui, au jour le jour?
En Tunisie, je suis bien reconnue, franchement. Il y a les gens qui me saluent tout le temps, qui m'encouragent tout le temps, que ce soit via Facebook, Instagram ou dans les rues des fois. Et ça me fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à moi, même des fois dans d'autres pays arabes. Et ça me fait trop plaisir, franchement. J'essaie vraiment d'inspirer d'autres femmes ou d'autres hommes de venir ici, de faire de leur mieux, et je suis vraiment contente qui me suivent et j'espère que je vais bien gagner ici et dans notre tournoi.
Sur les réseaux sociaux, on vous a vu beaucoup dans cette quarantaine, là, cette quatorzaine, taper des balles contre un matelas, faire un petit peu d'exercice dans votre chambre. Racontez-nous le sentiment que vous avez eu quand vous avez tapé votre première balle sur un terrain en Australie, que ça a été possible de le faire avec cette certaine liberté.
C'était pas aussi mal que ça. Franchement, j'ai pu bien frapper la balle, mais bon, c'était un peu différent pour les déplacements sur un tapis, c'est pas la même chose. Sur un terrain de tennis, mais franchement, on a fait de notre mieux pendant ces deux semaines-là. On a essayé de maintenir, d'essayer d'être présente et on a fait de notre mieux. Juste après, on a essayé de s'entraîner, mais en fait, de garder un bon rythme. Et ok, ma main m'aide un peu, mais bon, je suis vraiment contente que ça se passe bien en Australia Open. C'était notre premier objectif déjà.
J'ai une toute dernière question. Vous dites souvent on. Il y a beaucoup de joueurs de tennis qui disent « je ». Vous dites souvent « on ». Vous êtes vraiment une équipe soudée.
Ouais, bah en fait, mon préparateur physique, mon entraîneur tennis et tout le reste, parce qu'en fait, je suis là juste avec ces deux-là, mais en Tunisie, il y a toute une équipe qui travaille derrière moi et sans cette équipe-là, je serais jamais arrivé ici. Donc oui, je suis quelqu'un d'esprit d'équipe. J'aime bien qu'on travaille ensemble et peut-être le tennis c'est un sport individuel, mais pour moi c'est un sport d'équipe.
Merci Honte.
Merci.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Marie.
Et quelque chose de très rare, c'est une banque qui perd de l'argent.
Oui, tout à fait. Donc, c'est la Commonwealth Bank of Australia, CBA. Et là, ils ont annoncé que leurs bénéfices sont tombés par 21%. Donc 21% moins que l'année dernière. Quand même, ils ont quand même eu des bénéfices de 4,88 milliards de dollars, donc quand même très important, mais presque un cinquième moins qu'avant. Ils disent que vraiment c'est suite après la première récession qu'on a eue en Australie en 30 ans et aussi beaucoup de clients qui sont obligés de repousser les repayements pour leurs prêts ou pour les hypothèques. Donc ça c'était un grand problème pour la banque depuis le début de Covid-19. Mais l'autre chose c'est que le taux d'intérêt est juste à 0,1%. Ça veut dire que ils gagnent moins d'argent, il y a moins de bénéfices quand ils prêtent de l'argent aux gens. Donc la marge d'intérêt a été beaucoup réduite et cette marge d'intérêt, c'est la différence entre ce que la banque paye pour emprunter elle de l'argent et le taux auquel la banque prête de l'argent aux consommateurs, au business, aux gens en général. Donc ça a été beaucoup réduit et ça, c'est un des endroits où les banques font la plupart de leur argent. Et ça, donc, ça veut dire que la banque fait beaucoup moins de bénéfices qu'avant. Il y a quand même des bonnes nouvelles pour la banque. Avec Covid, il y a beaucoup de gens qui ont reporté les repayements de leurs prêts. C'était avant, au début de l'année dernière, les premiers 6 mois de l'année dernière, il y avait à peu près 145 000 prêts qui valaient 51 milliards de dollars où les gens ont reporté les repayements. Et là, c'est beaucoup, beaucoup tombé. Il y a seulement 25 000 hypothèques qui valent 9 milliards de dollars où les gens font ça. Ça, c'était jusqu'à la fin de janvier, le 31 janvier, en fait. La moitié euh, de, de tous ces prêts, en fait, sont au Victoria, où, bien sûr, l'impact du coronavirus a été le plus sévère, peut-être, et avec plusieurs confinements. Mais ils disent, la banque dit que, bon, que l'avenir se présente un peu mieux, mais il y a quand même pas mal de risques économiques et, bien sûr, avec la santé, avec le virus. Donc, ils vont faire attention à ça. Mais en général, ils sont un peu plus positifs qu'avant. Ils disent que les signes sont meilleurs qu'avant et qu'on devrait voir que les bénéfices de la banque remontent la prochaine fois qu'ils annoncent ça. Parce que oui, c'est assez rare de voir une banque qui perd de l'argent comme ça, particulièrement ici en Australie.
Et puis, Nicolas, la Noël a été une période très chère pour beaucoup de gens en Australie.
Oui, voilà, c'est peut-être pas une surprise, c'est toujours normal que les gens dépensent pas mal d'argent à Noël, on achète beaucoup de cadeaux, donc on utilise beaucoup plus nos cartes de crédit, mais là, y a les gens, ils ont accumulé à peu près 200 millions de dollars de dettes pendant cette période à Noël, et c'est la Banque Centrale d'Australie qui montre que c'est un peu plus que 200 millions, en fait, c'est 205 millions, et ça, c'était juste pendant le mois de décembre, ce qui est plus que le mois d'avant. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt sur tout ça. Et la banque s'inquiète un peu que les gens vont avoir du mal à repayer tous ces dettes. Parce qu'en même temps, les taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont très très hauts souvent donc la banque pousse les gens à trouver des cartes de crédit avec des taux d'intérêt moins hauts que certaines, parce qu'il y en a qui sont aussi hauts que 24 presque 25%. Ce qui est énorme, et la banque dit que c'est impossible pour les gens de payer ça. Ils disent que c'est facile de chercher un peu plus partout. Il y a le gouverneur de la Banque centrale, Philip Lowe, qui dit appelez les banques, demandez-leur quel est leur taux d'intérêt. Il dit qu'il y en a beaucoup en Australie qui ont des taux d'intérêt qui sont en dessous de 20%, et il y en a qui sont à moins de 10% même. Donc c'est pas nécessaire d'accepter des taux d'intérêt de 25% qui vont faire payer les gens beaucoup beaucoup plus en même temps qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours au chômage ou qui ont pas eu une hausse de salaire depuis très longtemps. Ici en Australie, ça fait longtemps que les salaires ne montent pas vraiment, et donc l'autre problème, c'est afterpay. Qui veut dire que les gens ne payent pas avant un peu plus longtemps après qu'ils ont acheté quelque chose, et il dit que ça aussi a des taux d'intérêt très très hauts. Donc il y a le gouverneur là de la banque centrale qui dit éviter afterpay, éviter les cartes de crédit où on paye beaucoup plus. En même temps, ils ont dit quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est que la banque centrale a vu que les gens vont beaucoup moins au guichet automatique pour sortir l'argent. Donc, c'est tombé par 21,2% en décembre 2020 comparé à l'année d'avant. Et donc, ça montre que de plus en plus, les gens n'utilisent pas l'argent en liquide. Ils utilisent leur téléphone pour payer, ils utilisent les cartes de crédit et c'est intéressant. Donc, on va voir si ça continue, mais c'est sûr qu'on en a déjà parlé, que l'Australie devient de plus en plus une société avec moins en moins de liquide, ou cashless society, comme on dit. Donc, une baisse de 21% en 12 mois seulement, c'est vraiment énorme. Donc, c'est quelque chose qui accélère, c'est sûr, en tous les cas.
Merci, Nicolas, pour cette analyse. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/français.
Fait toujours beau, quelque part.
Et c'est c'était bien entendu Laurent Voulzy, Il fait toujours beau, quelque part, qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de février 2021. 13h41, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série de podcasts sur l'histoire cachée de l'Australie, dans laquelle on va s'intéresser aux petites histoires nichées dans la grande, celle qui s'est écrite avec un grand H de ce pays qui, pour la plupart d'entre vous, est aussi désormais le vôtre. Cette série et tous les épisodes à venir, vous pourrez les retrouver sur notre site SBS French, mais aussi sur notre chaîne SBS Reportage, à laquelle vous pouvez vous abonner depuis votre application de streaming audio préférée. Et pour commencer, en beauté, on va vous expliquer comment l'Australie a failli devenir française. On va en parler avec notre collègue Grégory Pless. Bonjour Grégory.
Bonjour Christophe.
Alors Grégory, l'Australie telle qu'on la connaît, elle a été fondée par les Anglais en 1788. Avant de rentrer dans les détails, pouvez-vous nous dire en quelques mots comment l'Australie aurait pu devenir donc un territoire français ?
Oui, alors en fait, au centre de cette affaire, il y a Napoléon Bonaparte. Et sous couvert d'expéditions scientifiques, il a envoyé à l'époque des espions en Australie au cours des premières années de la colonisation anglaise. Et ces espions, ils étaient chargés de rédiger des rapports sur les capacités de défense des Anglais sur place, essayer d'identifier de potentiels alliés en Australie qui accepteraient de se révolter contre les nouveaux maîtres des lieux, et jusqu'à ce qu'un ordre officiel d'invasion soit donné par l'empereur Napoléon, mais qui n'a cet ordre jamais pu être mis à exécution.
Alors Grégory, l'histoire de Napoléon en Australie, elle commence en fait avant même qu'il ne devienne empereur ou premier consul.
Oui, effectivement, la première fois que Napoléon s'intéresse à l'Australie, il est tout jeune, il n'a que 16 ans. À l'époque, il est sous-lieutenant dans l'armée et il vient tout juste de sortir de l'école militaire à Paris. Alors, comme des milliers d'autres à cette époque à travers l'Europe, il a lu et il est fasciné par les récits des expéditions de James Cook à travers le Pacifique. D'ailleurs, il a énormément d'admiration pour lui. Et donc, on est en 1785, Louis XVI désigne Jean-François de Lapérouse pour mener une expédition autour du monde qui doit permettre de cartographier les endroits où James Cook n'est pas allé, mais aussi d'établir de nouvelles routes commerciales et de créer de nouveaux avant-postes français dans cette partie du monde qui est encore très mal connue. Bref, l'annonce de cette expédition, elle fait énormément de bruit en France. Il y a des milliers de personnes qui candidatent pour participer à cette aventure. Et parmi ces candidats, il y a donc un certain Napoléon dit Buonaparte. À cette époque, il n'a pas encore francisé son nom, mais pas de chance pour lui, sa candidature n'est pas retenue. Et donc, plutôt que la marine, il s'engage finalement dans l'armée avec le succès qu'on lui connaît.
Ouais, succès, hein, parce que ensuite, eh bien, il se distingue très vite donc, au sein de l'armée. Il devient général, enchaîne les victoires et finit par devenir premier consul. Et c'est à ce moment que Napoléon s'intéresse à nouveau à l'Australie.
Oui, oui, c'est le capitaine Nicolas Baudin, qui est un officier de marine marchande chevronné, qui vient réveiller l'intérêt de Napoléon pour ce bout du monde. Et il parvient à le convaincre de lancer une nouvelle expédition avec deux bateaux qui sont baptisés le Géographe et le Naturaliste. Le nom de ces navires qui partent du port du Havre en octobre 1800, ils ne sont pas choisis au hasard puisque le but de cette mission, c'est de finir de cartographier les côtes de l'Australie, qu'on appelle encore à l'époque la Nouvelle-Hollande, mais aussi de ramener autant de spécimens possibles de la faune et de la flore locale. Alors à bord de ces bateaux, il y a plus de 250 officiers, l'équipage bien sûr du bateau, mais aussi la fine fleur des scientifiques de l'époque, des botanistes, des zoologues, un astronome, un minéralogiste, un hydrographe, mais aussi des jardiniers et des illustrateurs. Alors la traversée, elle n'est pas particulièrement confortable parce que les deux navires ont été aménagés pour permettre au retour d'y entreposer des animaux et des plantes, et ils sont aussi remplis de matériel qu'ont ramené les scientifiques, à tel point d'ailleurs qu'il a même fallu retirer des canons pour faire de la place. Mais parmi cette dream team de scientifiques, il y a un jeune homme qui dénote un peu, il s'appelle François Perron.
Ah, la dream team, alors Grégory, qui est ce François Perron ?
Alors, il participe à l'expédition en tant qu'anthropologue parce qu'il a réussi à convaincre le comité qui a sélectionné le scientifique qu'il fallait absolument quelqu'un pour étudier les populations aborigènes. Le problème, en fait, c'est qu'il n'est pas anthropologue. Son seul fait d'arme en tant que scientifique, c'est d'avoir étudié à l'école de médecine à Paris. Mais d'ailleurs, il ne va même pas aller jusqu'au bout, il ne va pas être diplômé. Ceci dit, il s'intéresse beaucoup à l'histoire naturelle et c'est comme ça qu'il va devenir l'assistant de François de Jussieu. Jussieu, comme comme la fameuse université à Paris. Et ce François de Jussieu, à l'époque, il est le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est aussi un homme très influent qui va peser de tout son poids pour que son protégé, François Perron, participe à cette expédition.
Alors, sauf qu'une fois arrivé en Australie, bien François Perron ne semble pas très très intéressé par la faune, la flore ou alors les aborigènes.
Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, d'après les journaux de bord ou ses propres notes et ses mémoires, il n'en parle quasiment pas. En revanche, il s'intéresse beaucoup, beaucoup aux Anglais. Il passe par exemple beaucoup de temps avec le gouverneur Philip Gidley King, qui dirige alors la colonie, mais aussi avec tous les autres dignitaires. Et puis, il furette un peu partout dans Port Jackson. Port Jackson, c'est l'ancien nom donné à la ville de Sydney. Et il ne peut pas s'empêcher de remarquer que rien ou presque n'a été mis en place pour protéger la ville. Quasiment pas de fortifications, que ce soit sur la terre ou sur la mer, pour protéger le port. Et il rédige d'ailleurs une note sans ambiguïté, selon laquelle, je cite, « seulement deux frégates pourraient bloquer une flotte entière ». Et la véritable raison de sa participation, elle apparaît encore plus clairement dans un rapport secret qu'il a rédigé. Je vous en lis un extrait. Toujours à la recherche de moyens d'humilier notre éternel rival, le premier consul, juste après la révolution du 18 Brumaire, a commandité cette expédition. Son véritable objectif ne pouvait pas être révélé au gouvernement d'Europe et encore moins aux Britanniques. Leur consentement à cette expédition se devait d'être unanime et pour l'obtenir, il était indispensable que nous soyons en apparence dénués de toute motivation politique.
Alors le véritable objectif des Français donc en Australie, c'est d'espionner les Anglais qui viennent tout juste de s'y installer. Mais a-t-on des preuves formelles que l'ordre a été donné de Napoléon ?
Alors non, effectivement, il n'y a aucune trace écrite d'un ordre donné par Napoléon, son état-major qui va en ce sens, mais en même temps, on parle là d'espionnage, une discipline où le maintien du secret est bien sûr vital, ça n'est donc pas forcément très surprenant. Et puis, comme je viens de le mentionner, on a des traces de rapports rédigés par François Perron, mais aussi par d'autres membres de l'équipage, comme par exemple Louis de Freycinet, à qui on attribue un autre rapport qui lui aussi est très clair. Je cite, « La conquête de Port Jackson serait très aisée, car les Anglais ont négligé tous les moyens de défense. » Un peu plus loin, il précise également que la résidence du gouverneur, celle du colonel du régiment des Nouvelles-Galles du Sud, les casernes et un bâtiment public sont les principaux édifices. Si nous les capturions, les autres bâtiments, 300 à 400 maisons de petite taille, tomberaient naturellement entre les mains du conquérant. Voilà, je pense que c'est difficile d'être plus clair.
Ouais, c'est clair. Donc, on peut dire que quelques années plus tard, Napoléon élabore un projet d'envahir l'Australie.
Oui, et alors là, pour le coup, il y a bien une trace écrite dans sa correspondance. On peut même la consulter sur Internet, en fait, sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Cette lettre, elle date du 9 juin 1810. Elle est adressée au ministre de la Marine, qui est en fait à l'époque le ministre de la Guerre, et lui demande d'envoyer des frégates et 1500 hommes en direction de l'Île-de-France. L'Île-de-France, en fait, c'est le nom qu'on donne à l'époque à l'île Maurice, et il conclut cette lettre par ces mots. On proposerait à l'arrivée de ces expéditions de faire prendre la colonie de Jackson, qui est au sud de l'île de France et où l'on trouverait des ressources considérables. Alors voilà, en termes géographiques, tout ça n'est pas très précis, mais dans l'esprit des Français à l'époque, en tout cas, c'est très clair. Et effectivement, donc la colonie de Jackson, en fait, c'est l'Australie, et c'est donc au total avec 5 à 6 000 hommes et quelques frégates que Napoléon comptait en chasser les Anglais.
Et pourtant, cette attaque n'a jamais eu lieu.
Et non, en effet, tout simplement parce que cette invasion, elle n'a pas eu lieu assez vite. Quelques mois seulement après que Napoléon ait donné cet ordre, en décembre 1810, ce sont les Anglais qui ont attaqué l'île de France, donc l'île Maurice donc, et qui ont vaincu les Français. Et comme les Anglais en Australie, les Français à l'île Maurice ne disposaient pas d'une défense suffisante sur place. À l'époque, celui qui dirige l'île, c'est le général Decamp. Il était à la tête d'environ 1300 soldats, mais en face d'eux, il y avait plus de 7000 militaires anglais, mais aussi 22 navires de guerre le long des côtes, dont les canons ont rapidement poussé les Français à capituler. Les Français ayant donc perdu Maurice, qui devait servir de base arrière pour l'invasion de l'Australie, eh bien, ils ont tout simplement abandonner le projet d'en prendre un jour possession.
On peut dire que c'est l'arroseur arrosé. Hein. Grégory, si on veut en savoir un peu plus sur cette histoire, est-ce qu'il y a des ouvrages que l'on peut lire ?
Oui, alors il en existe un certain nombre, mais celui que je vous recommande vraiment et que j'ai utilisé comme base pour vous raconter cette histoire, c'est un livre qui a été écrit par un ancien journaliste du Sydney Morning Herald qui s'appelle Terry Smyth. Et son livre, il s'appelle « Napoleon's Australia ». C'est très documenté et en même temps, ça se lit comme un roman. Il est sorti en août 2018 et vous le trouverez assez facilement dans les librairies en Australie.
Voilà, merci Grégory.
Merci.
Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Nous espérons que vous l'avez donc apprécié. On reviendra prochainement avec un nouveau podcast sur Napoléon et l'Australie, où pour être plus précis, on parlera surtout de sa femme Joséphine, qui vouait une véritable passion pour la faune et la flore australienne. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
À 13h56, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité. Pour aujourd'hui, l'OMS qui approuve l'utilisation du vaccin AstraZeneca, celui-même choisi par l'Australie. Aux États-Unis, les suites du procès en destitution de Donald Trump, deuxième jour donc de ce procès, Donald Trump, l'ancien président américain. Et en France, l'exécutif qui explore des changements dans la lutte contre les violences sexuelles. C'était un petit jardin. Voilà, c'est donc, vous l'avez reconnu, hein, Thomas et Jacques Dutronc, père et fils, avec Le Petit Jardin, chanson qui fait également partie de notre sélection musicale pour le mois de février. Je vais vous laisser avec eux pour finir ce programme. Je vous rappelle simplement que le prochain programme en français, c'est bien entendu samedi à 13h et dimanche à 13h. Également, rendez-vous sur notre site internet également, sbs.com.u/French. Je vous laisse avec papa et fiston Dutronc, Thomas et Jacques Petit Jardin. Bon appétit à tous, si vous êtes encore à table, bon après-midi et on se retrouve donc samedi. À bientôt.
De béton dans le jardin, une voix chante.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.